micro du soir, Aïchla RFI.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Bogdan Simion, une personnalité dans le domaine social cumulant plusieurs fonctions. Directeur général de la Fondation SERA, ONG spécialisée dans la protection de l'enfance et la promotion des droits de l'enfant. Également directeur général de l'Association pour le développement de l'enfance et président de la Fédération des organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'enfance. Mais je n'ai pas fini. Bogdan Simion est aussi vice-président du Conseil économique et social, la plus haute institution pour le dialogue social en Roumanie, et il est également médecin. Bogdan Simion, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Goudin.
Nous sommes ravis de vous avoir au micro du soir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que nous nous penchions sur vos activités au sein de la Fondation SERA, parce que c'est elle qui apparaît en premier, hein, dans les informations que vous m'avez envoyées sur vous. Alors, son actualité, ses actualités et son origine. Racontez-nous un petit peu l'histoire.
Alors, SERA, c'est une belle histoire dans cette mouvement pour les droits des enfants qui n'était pas au début tellement gay, hein, ni maintenant, mais on est loin de cette période.
Quand vous dites au début, dans les années 90...
Oui, voilà. Je parle de 95-96, quand la Fondation SERA Roumanie, elle était formée, mais... à côté d'un copain qui était aussi médecin, et avec deux autres collègues, on a fait la Fondation SERA Roumanie et on a commencé à travailler dans la protection de l'enfance. Nous deux, mon ami, mon copain et moi, nous on avait fini l'école médicale en 94 et en 95 on était presque préparés de quitter la Roumanie, parce que ça, c'était le temps là-bas.
Hein. Pour exercer votre métier.
Pour exercer la métier, hein, parce que, juste anecdotique comme ça, je vous dis que nous, à Bucarest, dans l'année 94, on a fini 700 médecins. 700, on a fini l'école médicale, et en septembre l'année passée, on s'est vu après 30 ans d'activité, et plus de la moitié, ils sont à l'extérieur de Roumanie. Et on a dit en 94...
De cette promotion, de 700
oui, de cette
plus
de
la, sont partis.
Ouais, ouais, ouais. Alors, on a pensé que... Parce qu'on a travaillé comme bénévole depuis les dernières années de la faculté, et dans les fameux orphelinats de Roumanie.
Tristement
fameux. Et on a dit, mais... Essayons de faire un petit fondation, de voir si on peut résoudre quelque chose, et après on va se retourner vers la médecine. Et à vrai dire, depuis 96, c'est une longue histoire de SERA. SERA, elle a été inspirée par une association française. SERA, c'est un acronyme, c'est Solidarité Enfants Roumains Abandonnés. C'était une association qui était très active à cet temps-là, jusqu'à 2002, quand SERA France a fusionné avec CARE, une membre de réseau CARE international, une des plus grandes ONG du monde, et on a travaillé dans la protection de la France de cet temps-là. Avec pas mal de résultats dans tout ce qui concerne la fermeture des anciennes institutions, le développement des services sociaux, le développement de la protection des droits des enfants ici, en Roumanie.
Avec un financement qui venait surtout de la France?
Un financement principal qui venait de France et qui vient toujours de France, mais on a... on a fait beaucoup d'appels aussi à des autres sources de financement, la Banque mondiale, des fonds américains, des fonds européens bien sûr, mais aussi des contrats gouvernementaux en ce qui concerne l'action sociale et tout ça.
Penchons-nous précisément sur le sujet principal, hein, de vos activités, l'enfant, notamment celui qui est le moins bien loti, qui est en carence, que ce soit en carence affective ou matérielle. si vous deviez faire un bilan, alors je ne sais pas si la période est adéquate, mais sur les 5 ou alors peut-être les 10 dernières années, quel serait ce bilan, les progrès, et là où vous sentez que ça patine toujours ou que malgré les efforts, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas?
Écoutez, un ONG, il ne peut jamais dire que le problème est résolu, hein, parce que sinon, il perd l'objectif de sa existence. Mais disons que la Roumanie a passé dans les derniers 30 ans par des transformations énormes. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Ceaușescu nous avait laissé avec autour de 400 institutions résidentielles pour l'enfant. On parle ici de pouponnières, de maisons d'enfants, de toutes sortes.
Est-ce qu'il représentait à peu près combien d'enfants?
Oh, il représentait à peu près 5 000 enfants. 5 000 enfants, c'est énorme. Hein. C'est énorme dans l'univers, un univers résidentiel qui était toujours violent, abusif. Et si on parle. Alors, la réforme, Roumanie a commencé à 96-97 avec les discussions et la décision politique de rentrer d'adhérer à l'Union européenne. Et parmi la Roumanie a eu 3 objectifs politiques principaux à cette étape-là. D'avoir une économie de marché libre. La deuxième, c'était de résoudre la problématique des enfants dans les institutions. Et la troisième, c'était cesser la corruption et faire une justice correcte. Comme vous voyez, on parle toujours des droits des enfants, hein, parce que c'est une longue histoire. Hein. On vient d'un domaine qui a été orienté avec des lois communistes assez graves. Il ne faut pas oublier le décret de 66 de Ceaușescu qui a interdit l'avortement. Après, une loi dans les 1970 qui disait qui disait aux parents, si vous ne pouvez pas faire la prise en charge de votre enfant, donnez à l'État parce qu'il n'y a aucune répercussion. Ça fait qu'on est arrivé avec la chute économique des années 80, on est arrivé à ce numéro énorme des enfants dans les institutions. Mmh. Et on parle ici de 100 000 enfants, des enfants petits de 0 à 3 ans dans les institutions qui appartenaient au ministère de Santé, des institutions pour les enfants scolaires et préscolaires de 3 ans jusqu'à 18 ans, mais aussi une série des institutions pour les enfants gravement handicapés. Et tout ça, dans l'idée, cette idée généreuse européenne de résoudre la problématique de l'enfant dans les institutions, qui touche pas nécessairement l'origine de cette problématique, hein, parce que le problème c'était pas les enfants dans les institutions, mais comment et pourquoi on parle pas des orphelins, hein. Ça veut dire que les enfants abandonnaient leurs enfants dans les institutions.
Les parents abandonnaient.
Oui, les parents, oui. Ça fait que la grande question c'était pourquoi ils abandonnent, dans quelle situation et comment on peut cesser ça. Ah, aussi, on parle de cette.
C'est un problème de société profond. Hein.
C'est un problème qui, disons, est caractéristique au pays communiste, hein, parce que le système roumain, c'était le même système qui a été inventé par la Russie, qui était aussi dans tous les pays communistes de ce temps-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même des pays de l'Ouest, de l'Europe, qui ont fait appel à toutes choses comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on a eu aussi dans des pays européens des grandes institutions pour les enfants gravement handicapés. On avait beaucoup des enfants pauvres qui étaient éloignés de leurs parents par l'intervention de l'État. Je veux pas donner de noms, hein, mais ils sont des pays avec une belle histoire démocratique et une belle histoire de droits de l'homme et des droits des enfants. Hein, mais pendant l'histoire, ça, Oui. Mais quand même, dans les pays communistes, ça, c'était la caractéristique. Les grandes institutions.
Avec des conditions quand même particulièrement...
En Roumanie, c'était des conditions particulièrement...
Déplorables, oui.
Déplorables, oui, parce que, en effet, on était dans une chute économique extraordinaire.
Il n'y avait pas d'argent.
Les années 80... c'était pour toute la population la pauvreté, hein, et après dans ce passage de 10 ans dans les années 90, la Roumanie a passé pas mal de moments difficiles, avec une chute monétaire, avec une chute, avec toutes sortes de scandales politiques, de justice, de corruption et des choses comme ça, et que personne pensait à cet enfant. Ça fait que, en effet, la réforme des droits des enfants des institutions d'assistance sociale a commencé en 97. Et depuis 1997, on est à 28 ans de réforme, et la réforme continue. Mais quand même, on voit des énormes changements, hein, parce qu'à ces temps-là, on avait un taux d'abandon annuel énorme qui était autour de 12 000, 15 000 enfants par an. Ça veut dire que 12 000, 15 000 enfants passaient de la famille dans les institutions. Parce qu'à
pendant la période communiste, oui.
Oui, oui. On parle de la période après le communisme.
Ah, après, hein, dans les années 90, toujours.
Oui, parce que c'était... La chute économique, c'était énorme. Hein, c'était même plus grave que pendant le communisme. Maintenant, on parle de moins des enfants. Ça veut dire qu'on a... peut-être moins de 1000 enfants abandonnés par an, et les motifs d'abandon, ils ne sont pas les mêmes qu'à ce temps-là.
Mais on est toujours au-dessus de la moyenne européenne quand même?
Oui.
Bien au-dessus.
On est dans la moyenne européenne. Ah, hein, on n'est pas.
D'accord.
Ça veut dire que, pour exemple, la Portugal a plus d'enfants abandonnés que la Roumanie. Hein. Il y a quelques pays qui ont plus avec des réalités économiques parfois plus dures que la Roumanie.
C'est la raison économique qui est principalement le...
Principalement, c'est la cause de l'abandon. Hein, parce que la pauvreté, quand tu ne peux pas faire face à la prise en charge d'enfants, il faut le donner à quelqu'un. Et tu le donnes d'habitude à l'État. Alors, on voit ça, je sais que vous avez eu Yonut Jugurano, ça fait qu'on voit que le phénomène des enfants des rues des années 90, il s'est énormément réduit. Hein. On parle plus de... À ces temps-là, on avait des municipalités qui étaient effrayées par le nombre d'enfants. Mais, par exemple, Bucarest...
Même jusqu'au début des années 2000, hein, c'était un souci.
Oui. À ce temps-là, Iași, Constanța et Bucarest, c'était les municipalités qui ont été les plus... On avait les plus nombreux enfants. On parle entre 5 000 et 9 000 enfants dans la rue.
Et des problèmes de drogue, etc.
Des enfants errants, mais on était au début des drogues à cet âme-là, parce qu'on avait des drogues, disons, romantiques, ça veut dire des drogues, c'était pas des drogues synthétiques, c'était pas des drogues, c'était...
Parce que là, aujourd'hui, si on fait un petit peu le tableau de ce que des enfants en difficulté aujourd'hui, c'est le problème, et il est notamment vis-à-vis de ces drogues dures.
C'est les drogues dures.
Il y a beaucoup d'héroïne, par exemple.
Oui. J'ai vu une étude récemment qui disait que l'âge de première consommation, elle est très bas, hein, très très bas, vers 10 ans.
C'était, et là, ça concerne éventuellement des enfants qui ne sont pas dans la rue, mais qui ont un foyer. Et...
Non, c'est des enfants qui vivent dans des conditions complètement différentes que les années 90. Hein, et c'est des enfants qu'ils ont... On voit sous les statistiques...
Donc, ils ont un foyer, mais qui est un foyer dysfonctionnel.
Oui.
C'est ça.
Ouais. Ça veut dire que en avant, dans cette année-là, on voyait des enfants qui arrivaient dans le système à cause de dysfonctionnalités familiales, de cette fuite économique des familles vers l'Ouest et tout ça. Maintenant, on parle de changement psychologique dans la famille, on parle des abus émotionnels, on parle de l'influence de médias, de l'internet, de réseaux sociaux.
En fait, c'est des problèmes qui rejoignent ceux des problèmes que peuvent avoir des enfants de l'Ouest, des enfants de l'Ouest qui sont dans des foyers dysfonctionnels.
Absolument. On voit dans toute l'étude, ils font l'évidence de ça. Bon. Avec une éducation bas, avec un intérêt pour l'école qui est très bas, on voyait la...
Et l'abandon scolaire reste l'abandon, un problème en Roumanie.
Oui, l'abandon scolaire...
Là, par contre, par rapport au reste de l'Europe, il y a un gros souci.
Oui, on est presque champion. Il faut pas oublier, les enfants, ils ont donné le bac cette jour-ci. Hein. Ils ont commencé, si je me rappelle bien les chiffres, ils ont commencé... C'est une génération qui a commencé avec 150 000 enfants. Et le bac, il a été donné seulement
150 000, vous dites.
Oui, je dis 140 ou 150 000. Et le bac, il a été donné juste de 90 000, 92 000, quelque chose comme ça.
Donc, sur la tranche d'âge à 18 ans, sur les 140 000 enfants qui ont 18 ans, il y a...
Il y a deux tiers qu'ils ont donné. Ça veut dire qu'une tiers, on l'a perdu pendant les 12 ans de
Là, c'est cette
scolaire.
Année, vous parlez de...
Oui, de cette année. Hein. L'abandon scolaire, il est énorme. Hein. On parle de tests PISA et comment ça s'appelle? Je cherche le mot en roumain, hein, même pas en français. L'analphabétisme fonctionnel, qui est aussi énorme. Ça veut dire que les problèmes sociaux, ils sont changés. Dès que la Roumanie a commencé à évoluer, parce que si on parle de la manière économique, on est loin de ce temps-là, ça veut dire qu'on se retourne vers une économie qui essaye de consolider la classe moyenne et tout ça. Ça reste toujours des discrépances entre le rural et l'urbain, avec une problématique pour les droits des enfants, avec une problématique éducative, une problématique de santé.
Donc, est-ce que vous diriez, on va dire grosso modo, que les problèmes touchant l'enfance, la nature des problèmes rejoint celle qu'on peut trouver dans des pays ou dans des régions d'Europe de l'Ouest pauvres, mais c'est accentué en Roumanie, de par l'histoire et parce qu'il y a des différences entre l'urbain et le rural qui sont importantes.
Absolument, absolument. Ça, on le voit avec... ça veut dire que si ta naissance est dans le rural, et surtout dans le petit rural, ta chance d'arriver à un niveau acceptable économique quand tu as 20 ans, c'est, je pense, 6 sur 10, ils peuvent arriver à ça. Si on parle de... Il faut pas oublier que la pauvreté est plus grande dans les rurales, comme dans tout le monde. Mais apparemment, nous, on a des accents plus aigus que des autres régions.
Mais, et donc, heureusement quand même que... Pendant toutes ces années, des fondations comme CERA et d'autres ONG se sont bien développées par rapport à la fin des années, enfin au début des années 2000 même. Il y a quand même un circuit, un domaine d'ONG qui s'occupe de...
Oui, absolument. Les ONG, et surtout dans l'assistance sociale, dans tout ce que ça veut dire enfants, handicap et tout ça, les ONG, ils sont parmi les ONG progressistes et les ONG qui ont aidé énormément l'État. Mais si on s'objectivise un petit peu, on se demande si les ONG, si c'est la réponse correcte. Si on voit, par exemple, des ONG qui construisent un hôpital, mais l'État roumain ne fait pas ça. Si on voit que, par exemple, le prise en charge... les prises en charge pour les cas terminales, dans les phases terminales, l'État, il n'a pas de service, mais on a par contre quelques ONG qui ont les vrais services.
Le problème, c'est que les ONG peuvent être en manque de financement à un moment donné. Et donc, ces compensations sont fragiles. C'est ça, c'est ce que vous dites, le problème.
Peut-être,
de remplacer l'État, c'est aussi un...
Ça, c'est pas un développement normal. Hein.
Voilà.
Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est parfois, si on parle des droits des enfants et de ce système d'assistance sociale, on dit que les ONG, ils sont les champions. Ça veut dire que... moi, j'ai dit sans faute dans les derniers 30 ans que les ONG, ils sont les moteurs de la réforme faite par l'État roumain. Bien sûr, l'État roumain qui a été soutenu par la communauté européenne, hein, par la commission qui a donné pas mal d'argent, mais les ONG, ils ont amené d'argent en Roumanie presque au même niveau presque que l'Union européenne. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il faut, même s'il y a un développement, parce que maintenant, pour exemple, à la fin de l'année passée, on a plus des anciens institutions résidentielles pour l'enfant.
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Hein. On a parlé de 5000 enfants dans les années 80. Maintenant, dans les institutions résidentielles, il y a autour de 10 000 enfants. C'est énorme comme évolution, de 5 000 à 10 000 dans 28 ans.
De 100 000 à 10 000, vous dites.
De 100 000 dans les années 80, 90. Maintenant, on a autour de 10 000. Mm-hmm. À ces temps-là, on avait... La seule possibilité de faire la prise en charge des enfants, c'était seulement dans les institutions résidentielles. Maintenant, on a autour de 10 000 dans les institutions résidentielles, qui sont plutôt des appartements ou des petites maisonnettes, hein, avec 12 places au max. À ces temps-là, on parlait des institutions de 400, 600 enfants, 800 enfants. C'était énorme. Mais aussi, on parle d'un corps professionnel d'assistant maternel, qu'est-ce qu'en France, ça s'appelle la famille d'accueil professionnel, qui sont des professionnels qui sont payés pour faire la prise en charge de l'enfant dans une famille surrogat. Et on parle autour de 11 000, 12 000 assistants maternels. Et encore, on parle de 11 000, 12 000 de familles... famille bénévole qui accueille les enfants. Mmh. Ça veut dire que le système, il a autour de 30 000 enfants. Mais dans les institutions résidentielles qui sont les plus maudites, il n'y a que 10 000. Ça veut dire que le système, il a énormément évolué. Mmh. Et la cause principale, le moteur principal, je dirais, à part de... je ne peux pas dénier l'intérêt de l'État et sa pouvoir législatif. Mais quand même, les ONG, ils ont amené énormément d'argent, ils ont engagé énormément d'énergie et de professionnels dans ça. Et si on parle, par exemple, on a toujours des services sociaux qui appartiennent à l'État, mais aussi des services sociaux qui appartiennent aux ONG. Si on parle des enfants qui sont dans les institutions résidentielles, de ces 10 000, il y a autour... de 7500 qui sont dans les institutions de l'État, il y a autour de 2500 qui sont dans les institutions des ONG. Mmh. Mais pour les 2500, l'État roumain, il ne paye pas. Ça veut dire que...
S'il n'y avait pas les ONG...
Non, mais qu'est-ce que j'ai dit, c'est que cet enfant qui arrive dans les institutions, il arrive par, comme en France, par deux mécanismes. Un mécanisme administratif, c'est la commission de protection de l'enfance, qui place l'enfant dans de certaines circonstances dans l'institution, sans perdre la liaison avec les parents. Mais pour la plupart, c'est une séparation de parents. C'est un chute temporaire ou permanent, un déchute de droit parental. Et ça, c'est une décision de juge d'enfant. Ça veut dire que le juge d'enfant, il peut prendre la décision qu'un enfant roumain qui est un citoyen avec des droits égaux avec tous les autres citoyens, ils peuvent être amenés et placés dans une institution de l'ONG, mais l'État roumain que cet enfant est citoyen, il ne paye pas aux ONG le service social. Ça veut dire qu'il y a un manque de responsabilité de l'État qui, parfois, on se demande, mais comment on est arrivé ici?
Alors, précisément, je le disais en introduction, vous êtes vice-président du Conseil économique et social, vous avez également été président, parce que vous m'expliquiez qu'il y a un système de rotation dans ce Conseil, donc qui est la plus haute institution pour le dialogue social en Roumanie. Précisément, est-ce que quand vous parlez aux politiques, au pouvoir législatif, pourquoi il n'y a pas de prise en compte, une conscience plus importante vis-à-vis des problèmes. Et on a l'impression encore aujourd'hui que les priorités, elles sont pas là. Elles sont pas dans le social et on le voit encore aujourd'hui.
Oui, à propos de ça, juste pour vous confirmer, il y a une heure, j'ai regardé un petit peu le Facebook et j'ai un ami qui travaille pour une autre association qui était tellement pris par le fait que dans le programme de gouvernement de ce nouveau gouvernement qu'on a depuis hier, bon, bien sûr, on connaît tout là où s'en va l'économie roumaine, la fiscalité et tout ça. Alors, eux, les dirigeants, ils ont pensé qu'il faut toucher, par exemple, les bourses d'éducation pour les plus pauvres.
Ça veut dire réduire.
Oui. Ça veut dire qu'on est arrivé petit à petit, avec aussi des influences des ONG, avec l'influence des hommes intelligents politiques et tout ça, on est arrivé à un niveau de bourse scolaire pour les enfants les plus touchés par la pauvreté, à un niveau de 6 milliards de lei. Ça veut dire autour de 1 milliard et quelque chose d'euros. Alors, dans le programme de ce nouveau gouvernement, c'est une des objectifs, c'est de réduire les bourses scolaires pour les plus
hauts
risques, oui, les plus démunis, de les réduire à un tiers. Ça veut dire d'arriver à 2 milliards de lei, l'équivalent de 400 millions. Alors, vous voyez, ça
tient... Mais ça, c'est une bombe à retardement.
Oui, mais ça, c'est... Vous voyez, on est tellement pris par l'enthousiasme de casser tout, de réduire tout, qu'on le fait sans penser à... Qu'est-ce que vous disiez à propos de cette bombe avec retardement? Sans penser au futur. Petit à petit, on est arrivé d'allouer quelque chose aux plus munis, et d'un seul coup... Maintenant, dans cet enthousiasme de réduire
le déficit
et tous les coûts qu'on l'a mis, on réduit aussi pour les plus pauvres. Et c'est vrai. Moi, je peux comprendre que la politique c'est parfois c'est froid et c'est objectif, mais je pense que dans toute cette dépense faite de budget national, normalement, à part de l'importance, le niveau de dépense et tout ça, normalement, on devrait avoir aussi une liste des principes pour lesquels qui on l'applique à ce type de coûts. Hein,
Ce que vous dites, ça me rappelle, je lisais un entretien d'un économiste roumain de Princeton, je crois, ou de Stanford, qui corroborait ce que vous dites et qui disait que l'État roumain ne met pas l'accent sur les politiques sociales, de santé, d'éducation, dans 5 ans, les populistes, les plus radicaux,
oui, ils vont gagner.
C'est ça.
Oui, absolument.
Ça paraît d'une logique absolument...
Mais lui, il parle de... Pour exemple, lui, c'est vrai, hein, et ça, on le voit. Hein, lui, il parle avec... à propos des idéologies. Hein, mais moi, je peux vous dire que si on regarde la statistique des enfants, de la population infantile de la Roumanie, Et comment on a évolué comme population, c'est déjà dramatique, hein, parce que sur le temps de Ceausescu en 90, on avait plus de 5 millions d'enfants. Un tiers de la population de la Roumanie, c'était des enfants. Maintenant, on est, avec le nombre d'enfants, à 3 millions et quelque chose. La chute populationnelle, c'est énorme. Même l'Institut de statistique, l'Institut national de statistique a fait des appels, a dit que vers l'année 2050, on va être que 12 millions. Ça veut dire que c'est un enfer démographique. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Sans avoir de politique familiale.
Mmh. Et vous, enfin les jeunes parents éventuellement que vous rencontrez, c'est ça, c'est... Ou ceux qui éventuellement voudraient avoir un enfant, ce qui bloque, c'est le manque de soutien en termes de santé, d'éducation, oui, etc. Oui, c'est oui. Ça, et qui fait que ils partent éventuellement du pays aussi pour engendrer ailleurs, quoi, en fait.
Absolument. Hein, c'est il faut pas oublier que il y a toutes sortes de, vous voyez, il y a toutes sortes de conséquences. Hein, bon, on dit. On a autour de entre 5 et 6 millions de Roumains qui sont partis à l'extérieur de la Roumanie dans les dernières 20 ans, quelque chose comme ça. Bon, on a resté quand même autour de 17-18 millions. C'est pas une chute, mais c'est une chute avec, c'est comme vous disiez, c'est une bombe avec retardement, hein, parce que c'est pas les plus vieux qui sont partis. C'est les plus fertiles qu'ils ont partis. C'est des familles avec, on a vécu dans les années 2000, on a vécu la période avec les enfants laissés tout seuls ici en Roumanie par leurs parents. Et on avait des statistiques officielles, soit de l'administration centrale, soit de l'UNICEF, qui parlaient des chiffres très grave. Pour exemple, l'Autorité nationale de protection de l'enfance disait qu'on a autour, dans les années 2000, on a autour de 60 000 enfants laissés tout seuls par leurs parents.
Au début des années 2000.
Au début des années 2000. 60 000 enfants laissés tout seuls. Hein. Avec sur la légalité, je discute même pas la légalité. Hein. Parce que normalement, si le parent il n'est plus là-bas, il n'est plus présent dans la vie de l'enfant, normalement l'État il devrait mettre une mesure de protection. Soit il le met officiellement avec des papiers documentés aux grands-parents, ou la famille élargie ou ça, ou il le prend dans le système, de l'assistance sociale. Mais ça c'était l'autorité nationale, parce que au pôle contraire. L'UNICEF, à cet temps-là, il disait qu'il y a autour de 250 000 enfants laissés tout seuls. Et de ces 250 000 enfants, on avait 130 000 laissés tout seuls par les deux parents. N'importe quel chiffre, 250, 130 ou 60, c'est des chiffres effrayants.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est mieux. Aujourd'hui, c'est mieux parce que apparemment la migration économique, elle a beaucoup descendu en nombre, en numéro de familles. Moi, j'ai vu des statistiques de l'année passée, il y a 2 ans, qui confirment la croissance économique de la Roumanie. Ça veut dire que, si je me rappelle bien les chiffres,
il y a moins d'émigration également.
L'année passée, on a eu 200 000 personnes. Qu'ils ont revenu, la différence entre les personnes qu'ils ont quitté la Roumanie et les personnes qu'ils ont arrivé en Roumanie, c'était 200 000 plus.
D'accord.
Ça veut dire qu'on est, peut-être à cause des conditions économiques meilleures qui existent maintenant en Roumanie, peut-être la chiffre
sociale qu'il y a dans beaucoup de pays de l'Europe.
La chiffre, c'est positif parce que,
donc nous, ça, c'est de bon augure.
De bon augure, oui, mais qu'est-ce que j'ai dit, c'est que, vous voyez, si vous regardez un petit peu l'arbre populationnel de la Roumanie, qui est d'habitude comme un sapin, comme ça, tu vois la génération de 67, 68, 69, qui est énorme. Ça, c'est la génération de fameux décrets de Ceausescu, dans lesquels, alors, À ce temps-là, la démographie dit que on avait le nombre de nouveau-nés sans dans l'année 65-66, c'était autour de 200 000 enfants par année. Alors, le décret, Ceausescu était effrayé par le fait que la population de ce pays communiste va décroiser et qu'il va être un président sans avoir le peuple. Ça fait qu'il a donné cette fameux décret. Et ça fait qu'en 66...
Qui oblige aussi les enfants à avoir plus, 5 enfants, c'est ça?
Il médaillait les femmes qui avaient plus de 5 ans. C'était des mères héroïnes.
Voilà, qui avaient plus de 5 enfants.
De 5 enfants, oui. Mais il a interdit l'avortement, et notamment l'avortement, c'est pas les mêmes accents que maintenant. L'avortement en 66, c'était la principale méthode contraceptive. Parce que les pilules, ils ont arrivé dans cette monde, le 65, 66, on n'avait pas les pilules à cet âme-là. Alors, ça fait qu'en 67 et 68, dans 2 ans, au lieu d'avoir 400 000 enfants nés en Roumanie, on a eu 1,5 million d'enfants nés. Ça veut dire 4 fois... la démographie normale. Et on le voit dans les pyramides des âges, on le voit. Hein. Et ils vont sortir. Moi, je suis né en mars 67. Je suis pas le réponse de populationnelle de décret. Mais tous les enfants qui ont été nés après l'été de 67 sont les réponses populationnelles de ce décret. Alors, nous, on sort à la retraite autour de 65 ans. Hein. Alors, 65 ans, ça veut dire dans 2032-2033, toute cette génération va sortir à la retraite. Cette génération, populationnellement, c'était une population qui a bien travaillé pour la Roumanie. Mais quand on va sortir à la retraite, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va se passer, parce que la population...
Il n'y aura pas suffisamment de cotisants.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et on voit aussi, pour les années 2000 quelque chose, on voit que cette tranche d'âge, ils sont de plus en plus faibles, hein, parce que les femmes fertiles, les hommes très jeunes, ils ont quitté la Roumanie à travailler ailleurs, et ils ont fait des enfants ailleurs, pas ici en Roumanie. Hein. Ça fait que normalement, on devrait prévoir et on devrait pas seulement prévoir qu'est-ce que ça va se passer économiquement, mais comment on va réagir à toute cette chose. Mm-hmm. Pour exemple, comment on va faire la prise en charge de cette tranche d'âge de 2 ans des vieux, hein, parce qu'on va être vieux dans un moment. Ouais. Qu'est-ce qui ça va passer?
Et quand vous tenez ce discours-là à des politiques qui sont dans l'exécutif, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Écoutez, dites-moi, quel est l'âge moyen d'un politicien en France?
Ah, je ne pourrais pas vous répondre.
Non, mais l'âge moyen dans lequel il est actif dans la politique. Vous avez des politiciens qui pensent pour les futurs 20 ans? Ou il y a des politiciens qui pensent seulement pour les futurs 4 ans? Comment je peux...
Puis c'est le cycle électoral qui décide.
Oui, mais soyons sérieux, hein. Ça veut dire que si tu t'en vas un politicien, n'importe quel type d'intelligence, n'importe quel type d'idéologie...
C'est court-termiste.
Il est un court-termiste, hein. Il ne va pas penser, tu le dis, mais dans 20 ans...
Et c'est ce que vous voyez concrètement quand vous discutez avec ce genre de personnes, alors que l'argument est... J'allais dire, est imbattable, oui.
Ça veut dire que eux, ils s'en foutent complètement de qu'est-ce que ça va se passer pour les futurs 20 ans.
Surtout de la croissance économique, et voilà.
Alors, si on voit les hommes politiques, qui arrivent à un certain haut niveau, hein, ils sont d'habitude de 45 jusqu'à presque 60. Mais lui, si on...
Ils ont des enfants.
Oui.
Donc, ils peuvent quand même essayer de se projeter à travers leurs enfants et vouloir une Roumanie...
Ça veut dire que le discours, il est toujours difficile à le tenir, hein, parce que tu dois avoir un homme politique qui n'est pas tellement tracassé par la vie politique. Mais nous, on est tracassé par la vie politique, comme vous voulez, comme vous voyez, et qui peuvent réfléchir à qu'est-ce qui se va passer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Normalement, on devrait avoir dans l'administration centrale quelques commissions, quelques sages, quelques nucléaires de sagesse où ils peuvent penser à ça et donner des indications.
Et ça n'existe pas.
Non. Moi, je n'ai pas vu. À propos des conseils économiques et sociaux.
Ben, vous êtes une des personnes rares, peut-être, sans doute, qui...
Oui, mais moi, je ne suis pas... Moi, j'ai refusé complètement d'être politique.
Oui, oui.
J'ai refusé complètement parce que on a eu tellement de...
Mais vous êtes un conseiller qui est écouté.
Oui, mais je ne suis pas le mec qui signe la loi. Hein. Je ne suis pas... Je vous donne l'exemple. On a travaillé dans les dernières 3 ans et demi. On a demandé. On a rencontré une ministre de travail qui était intéressée par l'assistance sociale. Et qui pensait aux enfants, qui pensait aux vieux, aux handicapés, aux personnes avec des disabilités et tout ça. Et on a dit, mais écoutez, on a une loi de l'assistance sociale qui existe depuis 2011 et qui n'est pas respectée. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas respecté? Ça veut dire que dans cette loi de 2011, on est maintenant en 2025. Ça veut dire depuis 14 ans, on devrait avoir un service public d'assistance sociale dans chaque municipalité. N'importe quel rural ou urbain, on devrait l'avoir. On devrait avoir d'assistants sociaux qui peuvent nous donner la photo exacte de tous les risques sociaux qu'on a dans les institutions. Mais depuis ce temps-là, même si l'État roumain il a approuvé, il a signé, il a publié cette loi, l'État roumain il s'en fout complètement de cette loi. Ça fait que, pour exemple... En Roumanie, ça existe autour de 2700 et quelques communes. Où, je vous disais que le risque social, il est plus aigu que dans l'urbain. Et c'est dans toute cette commune, on devrait avoir au moins un assistant social qui, normalement, devrait tirer les sonnettes d'alarme pour les vieux, pour les enfants et tout ça. Mais... Il y a 3 ans et quelque chose, on avait de cette 2700 communes, on n'avait que 300 communes qui avaient d'assistance sociale, des services sociaux. Malgré la législation qui était obligatoire pour le maire d'avoir cette assistance sociale. Et on a parlé avec elle, on a dit, mais bon, écoutez, le ministère du Travail, il regarde seigneurial comme ça le système et il veut pas faire il veut pas appliquer la loi. J'ai dit, essayons de faire une sorte de commission entre les fonctionnaires publics et les ONG qui sont les spécialistes des ONG qui sont les plus ouverts, essayons de changer la loi. Ça nous avait pris 3 ans de rédiger la loi. Et la loi, elle a été publiée l'année passée, en avril 2024. Et malgré le fait qu'on a mis là-bas des obligations claires pour la municipalité, on a mis des obligations claires pour comment orienter les finances vers la population...
Les choses n'avancent pas, ouais.
Non. Le ministère du Travail, il a rentré dans son état d'esprit serein. Même si on a presque chaque année des énormes scandales avec les asiles pour les handicapés et tout ça.
Bogdan Simeon, on va devoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné au micro du soir. J'ai été ravi, c'est la première fois que vous veniez et c'est un vrai plaisir de vous avoir et que vous ayez informé sur ces sujets qui sont cruciaux. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Week-end Placoute. Au revoir.
Le micro du soir. Aïch la RFI.